Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série « Les anges qui nous servent ». Nous arrivons à l'étude numéro 6. Nous aurons quatre petits sujets. Premièrement, l'ange qui touche et qui réveille. Deuxièmement, l'ange qui nous protège. Troisièmement, l'ange qui combat pour nous. Quatrièmement, l'ange qui est au service de la vie. Nous commençons par l'ange qui touche et qui réveille. Le plus grand, sans doute, de tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était Élie. Élie, c'était un homme plein de feu et qui traverse maintenant une crise. Voyez-vous, il a été vainqueur de beaucoup de choses, surtout lors d'une grande confrontation avec les prêtres de Baal, et il les a tous fait mettre à mort. Son succès semble donc absolument total. Mais voilà que la reine Jézabel se dresse contre lui et menace même sa vie. Cet homme, si combatif, il est alors soudain pris de peur. Il ne veut plus poursuivre sa lutte et il s'enfuit au désert pour sauver sa vie. Et là, dans la solitude, il est rattrapé par sa propre agressivité et il la retourne contre lui-même. Il s'est enfui pour se sauver, mais il n'a plus du tout de goût pour la vie et il souhaite donc mourir, car il est rassasié de tous ces combats qu'il a eus durant toute sa vie. Il n'en peut absolument plus. Voyez-vous, il a lutté tout de même contre les prêtres de Baal avec la conscience d'accomplir la volonté de Dieu. Mais à présent, il n'a plus aucune motivation pour combattre. Il lui semble que tout son engagement au service de Dieu a été en vain. Il ne voit donc plus d'autres issues que la mort. Et il se couche maintenant sous un buisson de genêt et il s'endort. Le genêt épineux symbolise en quelque sorte le péché de l'homme. Ce péché qui l'oblige l'homme à cultiver un champ plein d'épines et de chardons. Et en se couchant sous le genêt, Élie se reconnaît tout aussi pécheur que les dévots de Baal, qu'il a pourtant combattu avec tellement de passion. Il est maintenant déçu de lui-même, et il est devenu résigné. Mais voici qu'un ange le touche et lui dit « Élie, lève-toi et mange. » Il regarde et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et même une gourde d'eau. Il mange et il boit, puis il se recouche. Mais voilà que l'ange de Yahvé revient une seconde fois, le touche et dit « Lève-toi et mange, car autrement, le chemin sera beaucoup trop long pour toi. » Alors il se leva, mangea et but. Puis, soutenu par cette nourriture, voilà que, enfin, il a pu marcher, marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. C'est écrit dans 1 roi, chapitre 19, versets 5 à 8. Voyez-vous, pour Élie, c'est le sens même de sa vie qui est détruit, ainsi que l'image idéale qu'il s'était fait de lui-même. Oui, voyez-vous, il est au bout de toutes ses forces et il semble que sa vie n'a plus aucun but. Or, voyez-vous, c'est juste en ce moment-là où il ne peut plus se tirer lui-même d'affaire, où il est à bout, voilà qu'un ange vient à lui et le touche. L'ange le réveille et lui montre le pain qui est cuit sur la cendre brûlante, ainsi que l'eau, c'est-à-dire tout cela est une énergie qui ne vient pas de lui-même. Le pain nous donne toute la force que nous avons besoin pour poursuivre notre chemin. Il est aussi le symbole de la nourriture spirituelle. Ce pain cuit dans la cendre de ses espérances consumées, c'est en quelque sorte l'image de ce qui nourrit vraiment quand les illusions se sont envolées. L'eau n'apaise pas seulement la soif, elle est aussi la promesse que le flot de la vie va revenir couler en nous, brisant la sclérose et régénérant la sécheresse. L'eau, c'est donc l'image de la fécondité et du renouvellement. Le pain et l'eau sont donc les signes de la transformation qui s'opère en Élie quand, dans son impasse, l'ange le touche et le réveille. Il est certes rassurant que Élie comprend maintenant, il comprend le message de l'ange, mais il ne s'en recouche pas moins ensuite. Figurez-vous qu'il se recouche pour se rendormir, incroyable mais vrai. Et il reçoit volontiers le réconfort, mais c'est seulement pour fuir de nouveau, pour fuir dans le sommeil. C'est ce que nous faisons parfois quand nous en avons assez. À l'évidence, il ne suffit pas que l'ange le touche une seule fois. Bien des gens se reconnaîtront en cet Élie qui est couché sous son genêt épineux. Ils en ont assez, plus que assez, et ils se sont usés à lutter. Et voilà qu'un jour vient où ils atteignent leurs limites. Ils sont fourvoyés dans une impasse dont ils ne peuvent plus ressortir par eux-mêmes. L'édifice de leur vie s'est écroulé. Ils ont toujours voulu que la famille qu'ils avaient fondée puisse rester intacte. Et voilà qu'elle se décompose. Leurs enfants s'en vont poursuivre, on peut dire, leur propre chemin. Leur partenaire, par exemple, les quitte. Et là, ils n'ont plus de force, on les comprend. Ou bien, ils se sont mis au service d'une paroisse qu'ils ont voulu vivante. Mais voilà que maintenant, on ne souhaite plus qu'il continue, ou bien encore, ils sont engagés dans leur parti politique, par exemple, pour une société plus humaine, soi-disant, où ils dépensent toute leur vie professionnelle. Et voilà qu'on les laisse tout simplement tomber. On ne fait plus appel à leurs idées, à leurs actions et à leurs forces. Voyez-vous, dans de telles situations, nous avons donc besoin d'un ange qui nous réveille. Ce sera parfois un être humain qui nous secoue et nous ouvre les yeux, qui nous fait un don de nature à nous rendre des forces. Son affection attentive, son amicale compréhension sont pour nous une nourriture, car elle nous montre que notre chemin peut quand même se poursuivre. Mais parfois, nous retombons aussitôt dans la même erreur et nous pensons que tout cela n'a servi absolument à rien. Alors un ange nous touche encore une fois et il nous remet debout. Il nous enseigne qu'il y a déjà dans notre vie des ressources disponibles auxquelles nous pouvons puiser et nous pouvons nous remettre en route. Il ne s'agit pas, à vrai dire, d'une agréable promenade, pas du tout, mais il s'agit là d'une marche de 40 jours et 40 nuits à travers tout le désert. 40, c'est le nombre de la transformation. C'est au bout de 40 jours que le monde rénové émerge du déluge. C'est au bout de 40 années que Israël atteint la terre promise où il lui sera donné d'être ce qu'il est en vérité. L'ange qui nous réveille de notre mortel sommeil, il se peut aussi que ce soit une parole que nous entendons ou que nous lisons quelque part. Nous l'avions peut-être déjà lu souvent sans la remarquer vraiment, mais voilà que maintenant, elle nous atteint, elle nous secoue et elle nous tire du sommeil. C'est aussi parfois l'expérience d'une paix intérieure, cette paix qui s'établit soudain en nous. L'ange peut être en nous-mêmes et peut nous indiquer en rêve des possibilités que nous n'avions pas vues, ou bien il nous fait faire une découverte qui nous remet debout. Souvent, nous ne savons pas d'où l'ange est venu. Nous, nous sentons tout à coup touchés et réveillés. Il peut s'agir aussi d'une expérience spirituelle qui descend sur nous d'un ciel serein lors d'une méditation, lors d'une promenade à la vue d'un coucher de soleil. Soudain, tout devient clair pour nous. Nous retrouvons alors la force de nous lever et de nous mettre en route. Si nous considérons l'histoire de notre vie par référence au récit qui nous rapporte celle d'Élie, nous constaterons que sans cesse il y a des anges qui viennent pour nous toucher et pour nous remettre debout. Plus vive se trouve la lutte, plus elle est terrible la lutte que nous avons menée, plus dure sera l'expérience de l'impasse où nous nous retrouvons. Nous ne pouvons pas vaincre la force d'agressivité qui nous, on peut dire que cette agressivité, tout qui représente tous les prêtres de Baal, qui se trouvent en nous, vous comprenez ce que je veux dire par là, et qui se trouvent autour de nous. Car plus nous allons combattre, plus va grandir cette force adverse, malheureusement. L'adversaire, nous devons le regarder en face et nous devons l'intégrer parfois à l'économie de notre existence, malheureusement pour nous. Voyez-vous, bien des gens croient, ils croient d'abord pouvoir faire beaucoup mieux que leurs parents. En tout ce qu'ils ont observé d'eux, ils veulent mieux élever leurs enfants. Ils veulent mieux établir avec leurs partenaires une communication plus intense et plus transparente. Mais un jour ou l'autre, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas meilleurs du tout, qu'ils commettent exactement les mêmes erreurs, les mêmes fautes, qu'ils blessent leurs enfants exactement comme ils ont été blessés dans eux-mêmes, dans leur enfance. Voyez-vous ? Donc, l'enseignement de l'ange, elle ne s'arrête pas pour Élie, pas du tout. Car au moment où il s'est levé et qu'il s'est remis en route, au bout de 40 jours, rappelez-vous, il arrive enfin au pied du mont Horeb, cette fameuse montagne de Dieu. Et là, il entre dans une grotte pour y passer la nuit. Après ce long cheminement dans le désert, on peut comprendre qu'il aspire à retrouver la sécurité, une vraie sécurité, et de pouvoir enfin se reposer. Et c'est ainsi qu'il voudrait faire l'expérience de Dieu. Or, voilà que Dieu l'appelle à nouveau et le fait ressortir aussitôt de cette grotte. Il est bien obligé de répondre à l'appel. Et voilà qu'il doit gravir la montagne. Il est pourtant déjà pas mal fatigué. Et il doit supporter encore le souffle du vent. Et Dieu lui montre qu'il n'est pas comme Élie l'avait vu jusqu'alors. Dieu n'est pas dans l'ouragan qui brise les rochers. Il n'est pas celui qui écarte automatiquement, en claquant des doigts, tous les obstacles sur mon chemin et m'enlève, m'entraîne dans les tempêtes de l'enthousiasme. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Souvent, j'aimerais que l'expérience que je fais de Dieu change absolument tout en moi et autour de moi, et qu'il ne reste pas pierre sur pierre, que tout en moi puisse être ébranlé et bouleversé. Or, voilà que Dieu, eh bien oui, Dieu, ce n'est pas dans sa puissance, cette puissance qui détruit tout ce qui s'y oppose, que je le trouve d'abord. Dieu n'est pas dans le feu, dans le feu qui consume et qui purifie tout ce qui est imparfait. Je ne le trouve pas dans mon perfectionnisme qui voudrait bien gommer toutes les fautes que j'ai commises. Dieu, je le rencontre dans une grande rumeur silencieuse et paisible, selon Martin Luther, quand il a dit, dans la voix du silence qui se fait doucement, la rencontre de Dieu se fait sans aucun bruit, dans la douceur et la délicatesse. On peut le deviner à travers cette douceur silencieuse. Il est là, là comme un souffle vivant. L'ange qui enseigne à Élie cette expérience de Dieu dans la paix et dans le silence veut me conduire moi aussi vers ce Dieu que l'on rencontre surtout quand toute rumeur s'est tue. Voyez-vous, chacune des crises que je traverse ébranlera l'image que j'ai de Dieu. J'aurai donc besoin alors qu'un ange m'accompagne quand je verrai se briser toutes mes images, qu'il m'invite au mystère du Dieu tout autre, oui, du Dieu que je pressens quand j'écoute la voix silencieuse de mon cœur, quand je rentre en moi-même comme Élie et que je me couvre le visage de mon manteau. Ainsi, enveloppé, protégé de ce qui au dehors pourrait me détourner, je prêterai l'oreille aux profondeurs du silence pour y saisir la présence de ce Dieu qui ne s'approche de moi que quand tout se tait. Oui, maintenant, nous avons dit deuxièmement, nous avons l'ange qui nous protège sur tous nos chemins. Voyons cela de plus près. Dans son oratorio, Elias, Félix Mendelssohn Bartholdy ne cesse de mettre en scène des anges qui s'adressent aux prophètes et qui le réconfortent. Particulièrement célèbre est son quatuor d'anges dans lequel il met sur les paroles du psaume 91 une musique si chargée de vertus vitalisantes que ces anges touchent carrément notre cœur et pénètrent en lui. Voici les paroles. « Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour que la pierre ton pied ne heurte. » Psaume 91, versets 11 et 12. Entendant ces paroles, on se sent vraiment protégé, on se sent porté sur les mains des anges. C'est une musique qui guérit, c'est une expérience de Dieu qui est devenue une musique. Et depuis toujours, les paroles du psaume 91 ont vraiment touché les cœurs. Deux images caractérisent l'ange qui nous préserve ainsi des pierres d'achoppement, des lions et même des dragons. Il nous protège et il nous porte sur ses mains. Il nous protège. Cela signifie qu'il veille sur nous, au-dessus de nous et pour nous, qu'il est attentif à notre place quand nous sommes distraits, inattentifs à notre route. Il entend sur nous toutes choses et là, il va étendre sa garde qui nous couvre carrément comme un peu comme un abri. Il nous enveloppe donc, pour ainsi dire, et de sa présence salvatrice, enfin, que les projectiles qui sont tirés par nos agresseurs ne puissent pas nous atteindre et que le poison, on peut bien dire, des effets et des qui tout ce qui nous irrite, que tout cela ne puisse pas nous nuire, c'est important. Et puis voilà que l'ange, il nous porte sur ses mains. Il nous élève au-dessus de la terre, afin que nous ne trébuchions pas sans cesse sur les pierres du chemin, afin que nous ne butions plus sur les obstacles. Il nous emporte donc dans une sphère plus haute, d'où nous pouvons voir tout ce qui se passe autour de nous. Quel jeu certains jouent avec nous. Oui, quel jeu. Voyez-vous, entre ses mains, nous avons changé de niveau et nous ne nous épuisons plus dans les frictions de la vie quotidienne. Et le contact avec un chemin poussiéreux et raboteux se trouve totalement aboli. Alléluia. Nous sommes ainsi délivrés du pouvoir qu'exerçaient sur nous les jeux pervers auxquels nous sommes bien souvent exposés et où nous nous laissons trop facilement entraîner. Il ne faudrait pas nous faire une idée par trop naïve de cet ange protecteur. Il ne nous garantit pas contre les situations trop difficiles qui sont au-dessus de nos forces et qui nous blessent au plus profond. Il ne préserve pas un enfant dont parfois on a abusé. Mais la blessure n'a pas le dernier mot. Oh non, je crois encore en l'ange qui est aux côtés de cet enfant et qui le couvre d'une protection, qui le sauve au plus profond de lui-même, mettant hors d'atteinte les agressions de dehors, cet espace intérieur où Dieu réside. Je crois en l'ange qui porte l'enfant sur ses mains, et cela afin qu'il ne se heurte ni ne se blesse aux pierres, à ces fameuses pierres que les hommes mettent sur son chemin, et qu'il puisse marcher sur le fauve et sur la vipère. En dépit de toutes les offenses, les enfants ont en eux quelque chose qui leur permet de, on peut dire, de le faire sans dommage. Voyez-vous, pour moi, c'est l'ange qui les porte sur ses mains. Quand l'adulte en thérapie ou dans l'accompagnement spirituel se remémore son enfance blessée, il ne faut pas qu'il fixe un regard fasciné seulement sur les lions, sur les vipères et les dragons qu'il n'a cessé de rencontrer sur son chemin. Mais il doit aussi rechercher l'ange qu'il a vu et qui a veillé sur lui pour qu'il ne soit pas détruit. Et s'il découvre les traces que l'ange a laissé sur sa route, eh bien, il aura plus de chances de venir à bout de son passé que s'il est seulement paralysé par la peur des lions et des dragons. Maintenant encore, l'ange est à ses côtés. Peut-être l'aidera-t-il à assumer, pourquoi pas, son histoire. S'il écoute le merveilleux air, par exemple, du ténor de la cantate de Jean-Sébastien Bach, qui dit ceci: « Restez, ô ange, restez auprès de moi, guidez-moi à mes côtés, afin que mon pied ne glisse. Mais enseignez-moi aussi, en même temps, votre sublime chant sacré et l'action de grâce envers le Très-Haut. Restez, ô ange, oui, restez auprès de moi. Et troisièmement, nous avons l'ange qui combat pour nous, c'est l'ange, l'archange Michel. Chers amis, dans une vision, le prophète Daniel voit un être d'apparence humaine qui le réconforte par de bonnes paroles. Il lui dit, selon Daniel chapitre 10, versets 18 et 19, « Daniel, ne crains point. Tu es l'homme de prédilection. Paix à toi. Prends force et prends courage. » Cet être lui annonce donc qu'il va lui-même se battre avec le prince des anges de Perse et que nul autre ne lui prêtera main forte que Michel, le prince des anges. La vision se poursuit. En ce temps, est-il dit, se lèvera l'archange Michel, le grand prince qui se tient auprès des fils de ton peuple. Daniel chapitre 12, verset 1. Le nom de Michel, ou si vous voulez Michael, cela signifie qui est comme Dieu. Je répète, cela signifie qui est comme Dieu. Et c'est à travers la figure de l'archange Michel que se décide mon attitude face à Dieu. Il m'enseigne à ne rien mettre à la place de Dieu, mais à le laisser être seul Dieu. L'archange Michel combat tout, absolument toutes les puissances terrestres, telles que l'idolâtrie, du pouvoir de l'argent. Et chers amis, je ne peux vivre vraiment en homme libre que si je réserve à Dieu la toute première place. Avez-vous compris? Nous devons réserver à Dieu la toute première place. Depuis toujours, l'archange Michel est considéré comme étant l'ange qui combat pour nous. Il a vaincu le dragon. Il est le vaillant champion de Dieu, représenté sous les traits d'un ange chevalier avec casque, cuirasse et avec un glaive flamboyant. C'est lui qui précipite les esprits infernaux, ces esprits maléfiques dans l'abîme. Dans la Sainte Bible, il n'est nommé que trois fois. Premièrement, dans le livre de Daniel, dans l'épître de Jude et dans l'Apocalypse. L'épître de Jude cite une légende juive selon laquelle l'archange Michel aurait lutté avec le diable pour lui disputer le corps de Moïse. Le diable a réclamé le cadavre parce que vous rappelez-vous que Moïse avait tué un Égyptien. Mais l'archange Michel s'oppose à lui et lui arrache Moïse pour l'emporter au ciel. Jude verset 9. Dans Die Offenbarung, c'est-à-dire dans l'Apocalypse de saint Jean, l'archange Michel, à la tête de tous ses anges, combat le dragon et il le jette sur la terre. Alors il y a eu une bataille terrible dans le ciel. L'archange Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a riposté avec ses anges, mais ils ont eu le dessous et ils furent chassés du ciel, définitivement. On l'a jeté, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le fameux séducteur du monde entier, ils l'ont jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Dans de nombreuses religions, le dragon est en quelque sorte une image des puissances hostiles au divin. L'archange Michel, c'est l'ange, qui combat en nous tout ce qui voudrait, par exemple, disputer à Dieu son rang, c'est-à-dire le premier rang. Et c'est encore l'archange Michel qui veille à ce que au ciel de notre âme puisse régner Dieu et non pas Satan, à ce que notre cœur puisse s'attacher à Dieu et non pas aux illusions fascinantes de ce monde pourri et déchu. L'archange Michel est donc le garant de la souveraineté de Dieu en nous. Nous ne sommes vraiment des êtres humains que si Dieu règne en nous. Dans un serment de Cyril de Jérusalem, on peut lire ceci. Lorsque le Christ a voulu venir sur la terre parmi les hommes, Dieu le Père a choisi une force très puissante qui est nommée Archange Michaël et a confié le Christ à sa protection. Michel n'est pas un ange gracieux, mais c'est une très grande force céleste. Et cette force céleste, Dieu l'envoie à tout être humain, afin qu'il ne soit pas vaincu par les puissances de ce monde. Et c'est là un message de réconfort auprès de nous. Il y a donc un ange qui lutte pour nous. Oui, il s'engage à nos côtés quand des gens nous combattent et quand nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Il se bat avant tout pour tous ceux qui sont faibles et qui sont sans recours, et ainsi aussi surtout pour les enfants. Cela, les enfants l'avaient compris à la fin du Moyen Âge, car il y a eu en ce temps-là de grands pèlerinages d'enfants à destination du mont Saint-Michel en Normandie. Ils sont venus de Rhénanie, ils sont venus de Bavière, de Souabe, de Suisse. Ils ont afflué vers cette montagne sacrée où l'archange Michel était carrément vénéré. À l'évidence, il sentait, bien entendu, que dans un monde hostile, hostile à l'enfance, ils avaient besoin de la puissance de protection, de cette puissante protection de cet ange, pour pouvoir vraiment vivre. L'enfance, elle semble livrée sans aucune défense au pouvoir souvent de forces destructives. Et quand des adultes racontent à quel point ils ont été victimes du despotisme d'un père coléreux qui les aurait quasiment battus à mort, si la mère ne s'était pas interposée, c'était également mon cas. J'éprouve une profonde compassion envers tous ceux qui ont été ainsi exposés sans aucun secours à la force destructrice de leur père, voire parfois même de leur mère. Cependant, quand je réfléchis, j'essaie de comprendre ce père qui a probablement en lui également aussi, il a sûrement eu une enfance très difficile, et ainsi il transmet à présent, sans en avoir tellement conscience, les terribles blessures qu'il a reçues en son temps. Il en souffre sans doute lui-même, mais il ne peut pas faire autrement. Il est dévoré par son agressivité, et celle-ci se répand à travers lui et dévore à leur tour ses propres enfants. Quand je repense ensuite à ceci, je trouve un réconfort dans l'idée que, en dépit de toute leur détresse désarmée, ils n'étaient peut-être pas entièrement livrés à la brutalité de leur père, que l'archange Michel a certainement combattu pour eux et leur a donné la force intérieure de survivre à ce terrible combat. Parfois, je m'étonne de voir que des êtres dont l'enfance a été soumise à la violence terrible sont restés à peu près normaux et qu'il leur arrive même d'accomplir de grandes choses. C'est que l'archange Michel est certainement intervenu en leur faveur, qu'il a combattu avec eux et leur a donné les forces dont ils avaient besoin pour surmonter ces dures épreuves. Et c'est par la vertu de ces forces qu'ils sont ensuite capables d'assumer le combat, ce fameux combat de leur existence. Tel fut donc, sans doute, depuis toujours, le sens de la vénération qui entoure l'archange Michel. Elle permettait aux hommes d'entrer en contact avec leur propre force. Et quand j'invoque l'archange Michel, en m'adressant à des êtres blessés, eh bien, ils prennent du recul par rapport à leurs blessures. Ils lèvent les yeux vers cette force, vers cette puissance que Dieu a placée à leur côté. S'ils se représentent l'archange luttant avec eux, eh bien, ils n'abandonneront pas la partie, et cela en dépit de toutes les tentatives vaines qu'ils ont déjà faites, mais ils oseront désormais livrer beaucoup de combats qu'ils ont jusqu'alors évités, oui, sous l'aile de l'archange Michel, ils vont pouvoir éprouver, ils éprouveront un grand sentiment de protection et de sécurité. Chers amis, bien entendu, une sérieuse mise en garde que je dois vous donner, c'est que Dieu interdit d'adorer et de vénérer les anges. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau et racheté par Jésus-Christ, nous n'aurons pas d'autre Dieu que Yahvé l'Éternel, notre céleste Père, et Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Je voudrais maintenant prier, mais d'abord, je voudrais vous lire une strophe d'un très ancien cantique. Et après la prière, j'essayerai, ou si possible que ce soit possible, de vous mettre quelques chants de 1962. Et voyez-vous, en ce temps-là, il n'existait pas de CD, même pas des cassettes. C'était des bandes magnétiques et c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, avec le temps, 1962, hein, peut-être que le son n'est plus aussi parfait que ce serait possible de faire aujourd'hui. Mais vous recevrez tout de même, croyez-moi, une profonde bénédiction. Revenons donc à cette strophe d'un ancien cantique. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste et heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Seigneur, nous avons imploré ta bénédiction dès le commencement de cette journée, ô notre Père, et c'est à toi que nous en voulons remettre les dernières heures. Tiens-toi près de nous pendant ce moment même, et parle à nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous désirons t'offrir nos esprits et nos corps en sacrifice vivant et saint, mais nous sentons bien souvent que nous nous laissons détourner de ton service par mille soins ou mille influences diverses. Garde nos âmes en ta présence. Remplis-les tellement de toi-même, ô notre Sauveur, de ta joie, de ton salut, d'une sainte et active reconnaissance, et qu'il y ait plus place en nous pour d'autres pensées ou d'autres préoccupations. Ô, si nous comprenions toujours ce que tu es et ce que tu as fait pour nous, si à chaque heure qui s'écoule, nous étions pénétrés de cette pensée que cette heure-là même, sans ta grâce, sans ton amour, serait pour nous une heure de ténèbres, de péché et de condamnation. Dieu fidèle, rends-nous fidèles. Nous nous écrions avec le psalmiste que tes bienfaits sont si nombreux que nous les pouvons réciter et dire. Nous te bénissons de ce que si nos péchés ont dépassé en nombre même les cheveux de notre tête, eh bien tes grâces, ô Seigneur, sont bien plus nombreuses encore. Et de ce que tu as plu, tu es beaucoup plus puissant pour nous sauver que l'ennemi. L'ennemi de nos âmes est capable pour nous perdre. Rends donc notre foi inébranlable et garde-nous dans la paix, dans ta paix, pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, je vais vous mettre, si possible, un ou deux chants de 1962.
Thought I'd stop by a while and see just once more before I leave town. But his car's parked there in your driveway, and I see the curtain. I won't bother to ring your doorbell. I'm not sure just how much I can bear. I might do something I'd be sorry for later. So I won't come in while he's there. Does he know my whole world is in there with him? That he's keen while he sits there in my chair. I'd like to tell you just how much I still love you, but I won't come in while he's there. No, I won't come in while he's there. Are you thinking that I wasn't meant for you? Could it be you believe that I've been untrue? Listen, sweetheart, this just cannot be, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all of you, but you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me. Like all lovers do, but you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened. I hear the sound of distant drums far away. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre. Let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.
my losing you? Are my fears coming true? How I wish I knew. Am I losing you? Is your love really true? Is there somebody new? Tell me what to do. Am I losing you? Am I too blind to see? What's been happening to me? Every road has a bend. Will I be sweetheart or friend? Will the sweet thing you do be for somebody new? Tell me what to do.
Too blind to see
what's been happening to me
happening to me.